Bon, on va commencer tout doucement. Donc, je vous rappelle que comme cette année, le cours est quand même un peu plus spécialisé, qu'on a une audience plus petite, donc profitez-en pour poser des questions et rendre la séance plus vivante. Donc, aujourd'hui, on va continuer notre exploration du rôle du couplage de Hund dans les matériaux corrélés. Et dans la partie cours, je vais vous parler surtout de ruthénate. Mais la partie séminaire introduit une autre classe de matériaux dans lesquels nous pensons que le couplage de Hund joue un rôle essentiel, à savoir les supraconducteurs à base de fer, qui donc ont été découverts encore relativement récemment, il y a 5 ans, et qui sont encore l'objet de beaucoup de recherches et encore de pas mal de controverses. Donc ce sera l'objet des deux séminaires d'aujourd'hui, puisqu'on a deux séminaires, l'un par Zilke Biermann, qui est là, qui va nous parler de calcul des interactions de Coulomb et Cranté dans les suprabases de fer et du rôle du couplage de Hund dans ces matériaux, et puis l'autre par Luca de Medici, qui va nous parler, qui sera un peu plus bref, et qui va nous parler de sélectivité orbitale, de différenciation orbitale dans les supra à base de fer. Bon, je vous rappelle également qu'il n'y aura pas de séance la semaine prochaine, qu'on reprendra le 30 mai, avec trois séances qui seront plus consacrées à des problèmes de transport dans les systèmes corrélés, avec le 30 mai deux séminaires, l'un de Florence Solli-Albinck qui sera de nouveau consacré aux supraconducteurs à base de fer et aux résultats de l'expérience de transport dans ces matériaux, et l'autre par Neven Barisic, qui parlera de résultats assez spectaculaires qu'il a obtenus récemment sur le transport dans les cuprates supraconducteurs. Donc c'est un sujet qui se rapporte plutôt, enfin qui est en lien direct avec évidemment le transport, mais qui, pour ce qui est des matériaux, se rapporte plutôt au cycle de cours de l'année dernière. Bon, alors je vais commencer par, je vais essayer de faire une séance relativement brève, pour peut-être une cinquantaine de minutes, puisqu'on a deux séminaires aujourd'hui. Je voudrais quand même commencer par vous rappeler un petit peu ce qui a été fait dans les séances précédentes. Donc, une des choses que j'ai faites dans les séances précédentes, c'est d'explorer sur un exemple modèle la physique du couplage de Hund. Et on a pris comme exemple modèle, parce qu'il est, il permet d'illustrer finalement les cas les plus importants, un système de trois bandes dégénérées couplées avec des interactions qui sont celles qu'on aurait dans un oxyde T2G, hein, donc un hamiltonien de Hubbard de Kanamori, donc avec, vous voyez, ces trois types de couplage. Le fait que ce couplage soit le plus faible, traduisant précisément la règle de Hund, qui favorise les spins parallèles dans des orbitales différentes. Ce qu'on avait établi, c'est que le couplage de Hund avait deux effets essentiels. Un effet qui est un effet sur les U critiques. Donc j'avais montré la dernière fois ce graphe qui donne le U critique pour la transition de Mott en fonction du couplage de Hund et qui montre que dans le cas demi-rempli, donc quand on a trois électrons dans trois orbitales par exemple, on a un effet très fort qui est une décroissance très rapide du couplage critique avec le couplage de Hund. Et j'avais expliqué au cours des deux cours précédents que cet effet très très fort, qui donc favorisait clairement l'état isolant pour le cas d'une couche demi-remplie, était la combinaison de deux effets physiques bien différents. Un effet qui est l'effet visible à grand J, qui est essentiellement un effet de physique atomique, de la physique de l'atome isolé, qui est la réduction du U effectif par le couplage de Hund. On avait vu que dans le cas d'une couche demi-remplie, le U effectif, pardon, l'augmentation dans le cas d'une couche demi-remplie, le U effectif devient U plus M moins 1J, où M est le nombre d'orbitales dans la couche considérée, donc ici U plus 2J, et que ceci nous permet de prévoir une variation du U critique, qui va donc être U plus 2J égale une certaine largeur de bande, qui va donc être négative, hein, avec une pente négative, moins 2J. Vous voyez que ça marche bien avec le comportement asymptotique à grand J de ce U critique. En revanche, à J petit, cet argument atomique est très insuffisant pour décrire la rapidité avec laquelle le U critique diminue. Et ce qui jouait un rôle très important ici, c'était le blocage des degrés de liberté orbitaux par le couplage de Hund. Dans le cas de mi-rempli, ce blocage se traduit par un blocage complet du moment cinétique où on tombe dans l'état L égale 0. Et corrélativement, à cause de cette diminution importante en énergie d'échange due au blocage des fluctuations orbitales, eh bien, on a une échelle caractéristique pour l'énergie cinétique qu'on peut gagner par délocalisation des électrons qui est considérablement abaissée, et c'est l'essentiel du phénomène qui est vu ici. Et j'avais consacré tout un cours, celui de la dernière fois, à illustrer ce blocage des degrés de liberté orbitaux et son influence sur l'échelle de cohérence des quasi-particules dans le cas de problèmes Kondo, où j'avais décrit la compétition entre l'effet Kondo et le couplage de Hund. Bon, alors on avait vu également que dans le cas d'une couche avec un seul électron ou un seul trou, l'effet est opposé, U critique augmente avec J, et ça c'est essentiellement un effet de physique atomique, alors que dans le cas, dans tous les autres cas intermédiaires, mais ici dans le cas à trois orbitales, ça se limite au cas avec deux ou quatre électrons, ou bien sûr des dopages intermédiaires entre ces valences entières, on avait un effet assez intéressant, non monotone, du U critique en fonction de J, où dans la partie J petit, on est dominé par l'abaissement de l'énergie cinétique par le blocage des fluctuations orbitales, et dans le régime J grand, on retrouve une augmentation du U critique due à l'effet de physique atomique. Donc là, on a véritablement, dans ce cas-là, qui est en fait le cas générique, les deux effets qui coexistent. Et d'une manière plus générale, j'avais insisté sur le fait que dans tous les cas génériques, c'est-à-dire sauf le cas demi-rempli et sauf le cas d'un électron ou d'un trou dans la couche, eh bien, le couplage de Hund a en fait un effet antagoniste sur la physique des corrélations. Donc, c'est ce qui était bien illustré, si vous voulez, par le graphe qui est ici, qui montre la dépendance du poids des quasi-particules en fonction de U. Dans le cas d'un modèle, toujours ce modèle à trois orbitales, avec deux électrons dans la couche. Et donc, ce que vous voyez ici, les flèches ici indiquent la manière dont les choses changent quand on augmente J. Donc, vous voyez ici un double effet qui va dans des sens opposés. Un effet qui est l'augmentation du couplage critique par le couplage de Hund, donc qui a tendance, en ce sens, à favoriser l'état métallique, qui éloigne l'état isolant du problème, du système considéré. Alors qu'en réalité, ici, on a un effet opposé, qui est que quand le système est métallique, en revanche, le couplage de Hund diminue l'échelle de cohérence, diminue le poids des quasi-particules. Donc on se retrouve avec une situation qu'on a appelée un effet Janus, parce qu'il a deux visages, une situation dans laquelle on peut avoir des matériaux qui sont loin de la transition de mode, qui seraient quelque part là-bas, mais avec un poids des quasi-particules ou une échelle de cohérence des quasi-particules très faible, des grandes masses effectives. Et donc tout un régime, comme vous voyez pour la courbe bleue claire ici, tout un régime de métaux fortement corrélés, loin de la transition de mode. Donc voilà un petit peu le message essentiel des deux cours précédents. Et j'avais illustré ça assez en détail dans le premier cours, en insistant sur l'aspect physique atomique de l'atome isolé, en insistant sur l'aspect U effectif, et dans le deuxième cours, en insistant sur l'aspect réduction de l'échelle de cohérence, en particulier dans le contexte Kondo. Alors ceci nous avait amené à commencer à dresser une espèce de cartographie des matériaux corrélés, et en particulier des oxydes de métaux de transition de la gauche, de la couche 3D et de la couche 4D, donc ceux pour lesquels une description T2G est raisonnable, en utilisant ces concepts, description qui ressemble beaucoup à la classification empirique qui avait été donnée par Atsushi Fujimori il y a très longtemps. Donc vous voyez qu'ici, dans cette classification de Fujimori, ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure qu'on remplit la couche 3D, la couche, là c'était pour les 3D, eh bien, on voit en particulier ici qu'il est beaucoup plus facile de former un isolant. La partie grisée ici, c'est la partie isolante. Donc vous voyez qu'il est beaucoup plus facile, effectivement, empiriquement, de former un isolant pour une configuration D3, qui ici correspond aux états T2G demi-plein, que pour une configuration D1, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprenait très bien en mettant tous ces concepts ensemble, toujours dans un cadre modèle, où ce qui est représenté ici, c'est un diagramme qui donne l'intensité du poids des quasi-particules par le code de couleur qui est là, donc entre 0 et 1, en fonction de la valeur de U et du remplissage de la couche, pour une valeur donnée du rapport J sur U, qui ici, dans ce calcul, est fixé, je pense, à 0,15. J'avais expliqué dans le premier cours qu'il y avait des raisons pour lesquelles, quand on se promenait de la droite vers la gauche de la série des métaux de transition, il était raisonnable de penser que J sur U était, disons, très approximativement constant et à peu près ce type de valeur. Bon, alors vous voyez ce qu'on voit ici très clairement. De nouveau, les flèches indiquent la manière dont ces lignes qui indiquent la transition de Mott, les barres noires, bougent lorsqu'on augmente J. Donc vous voyez ce qu'on voit très clairement ici, c'est pas mal de choses en fait. La première, c'est que quand on n'est pas au demi-remplissage, ces lignes montent. Donc ça, c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure, alors qu'au demi-remplissage, cette ligne descend. Donc ici, on s'éloigne de la transition de Mott. Ici, en fait, les corrélations apparaissent très près de la transition de Mott. Donc ça, c'était un premier point. Vous voyez ces larges plages. Ici, il y a une large plage de systèmes potentiels dans lesquels on a un poids des quasi-particules très faible, donc une grande masse effective. Et la zone favorable pour ça, c'est précisément le voisinage de ces remplissages, donc ici 2 et 4, et les valences entre les deux, où le couplage de Hund a un effet antagoniste. Il a un effet antagoniste en baissant Z et en éloignant U critique. Donc ça, c'est une des choses qu'on voyait là. Et puis, on peut commencer à s'amuser à placer des matériaux sur ce diagramme. Alors évidemment, ce placement est nécessairement quelque chose de semi-empirique, hein, on va dire. C'est pas dans la mesure où on compare un matériau avec toute sa complexité structurelle, ses distorsions. Là, on a choisi des matériaux peu distordus qui sont proches d'une symétrie cubique. Mais enfin, ce sont des matériaux qui ne se décrivent pas de manière naïve par le modèle que j'ai regardé. Mais néanmoins, on peut, à un niveau qualitatif, placer ces matériaux et en fait, les matériaux qui sont en noir ici ont été placés dans ce diagramme en identifiant 1 sur Z, donc l'inverse du poids des quasi-particules, à la masse effective mesurée expérimentalement. Et donc vous voyez que ça correspond à des choses très raisonnables, c'est-à-dire que ces matériaux 3D ici, qui sont des oxydes de métaux de transition 3D, ils sont placés pour un U sur D qui est en gros entre 3 et 4, ce qui est à peu près D, la demi-largeur de bande. U, c'est le U dans les notations T de G. Hein. Et donc ça correspond tout à fait à ce qu'on sait de ces oxydes de métaux de transition 3D. Et donc on voit bien sur ce diagramme comment le rôle de U et du couplage de Hund permettent de se rendre compte que strontium VO3, par exemple, est un métal relativement faiblement corrélé. Vous voyez qu'il est dans cette zone sombre, alors que strontium MnO3 est clairement un isolant de Mott. Hein, c'est un isolant de Mott avec un gap bien formé, une température de Néel de mémoire pas très loin de l'ambiance, quelque chose comme ça. Et strontium chromium O3, lui, est un très mauvais métal dans cette zone qu'on appellerait la zone Janus, disons. Et puis, si je regarde la zone des oxydes de métaux de transition 4D, qui est ici, donc vous voyez qu'ils correspondent à des rapports U sur D qui sont beaucoup plus petits, donc ça, c'est normal, puisque les orbitales sont beaucoup plus étendues, les largeurs de bande sont plus grandes, et en même temps, l'écrantage du U est plus efficace. Donc, on est plutôt dans des zones U sur D d'ordre 1 à 2. Et on comprend bien que des matériaux comme les ruthénates, dont Félix Baumberger nous a parlé la semaine dernière, vont être précisément dans cette zone, à l'entrée, disons, de cette zone mauvais métal pilotée par le couplage de Hund ici. Vous voyez aussi sur ce dessin qu'il y a une asymétrie, clairement, par exemple, de ces lignes de contour de Z entre n plus petit que 3 et n plus grand que 3. Et ça, c'est parce qu'on a utilisé dans ces calculs une densité d'état, une structure de bande, disons, qui est semi-réaliste, dans lesquelles on tient compte, en gros, de ce qui se passe dans un système T de G. On a utilisé une densité d'état comme ça. Et donc, il n'y a pas symétrie particule-trou hein, entre 2 et 4 électrons. C'est ce qui permet de comprendre, par exemple, que les oxydes de molybdène et les oxydes de ruthénium ont en fait une physique différente, parce que dans les oxydes de ruthénium, le niveau de Fermi, au moins pour l'orbital X2 moins Y2, est quasiment sur la singularité de Van Hove, j'en reparlerai tout à l'heure, alors que pour les oxydes de molybdène, où le remplissage est 2, le niveau de Fermi est très loin de la singularité de Van Hove et le système est moins corrélé. Bon, donc, vous voyez que sur ce diagramme. Donc aujourd'hui, je vais vous parler principalement d'oxydes de métaux de transition 4D, et je vais commencer en vous parlant de deux cas. Le cas des oxydes de technétium, alors c'est assez remarquable qu'on puisse étudier les oxydes de technétium, puisque le technétium est radioactif, il y a peu de laboratoires qui peuvent le faire, mais il y a eu une découverte récente assez intéressante sur ce matériau, donc je vais en parler un tout petit peu. Et puis, les oxydes de ruthénium, dont Félix nous avait parlé la semaine dernière, et sur lesquels je vais parler un petit peu plus aujourd'hui. Donc le plan de ce que je veux vous raconter, c'est vous parler très très brièvement de ces oxydes de technétium, donc qui ont trois électrons dans la couche D, ensuite un petit peu plus longuement de strontium 2 ruthénium au 4 et d'une évidence claire que le couplage de Hund joue un rôle important dans ces matériaux-là. Et puis ensuite, je veux vous parler un petit peu de cette zone claire dans ce diagramme, qui est cette zone de mauvais métal, et vous montrer que les calculs théoriques suggèrent, enfin montrent, que on a des comportements très inhabituels de l'état métallique dans cette zone, et vous dire un peu quel est l'état actuel de la compréhension théorique de ce comportement inhabituel, de ce comportement non liquide de Fermi. C'est un problème qui est encore partiellement ouvert du point de vue théorique. Je voudrais vous dire un petit peu où on en est de la compréhension de ce problème. Et puis, une fois que j'aurai fait ça, le cours sera essentiellement terminé pour aujourd'hui, et j'introduirai brièvement les supraconducteurs à base de fer qui seront vraiment abordés sérieusement dans les séminaires. Donc voilà un petit peu le plan de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, très brièvement, ces oxydes de technétium. Alors, vous voyez que ces oxydes de technétium, je les ai placés dans ce diagramme très près de la transition de Mott. Hein, donc, c'est l'idée que, bien que ce soit des oxydes de métaux 4D, eh bien, néanmoins, parce qu'ils sont demi-remplis, puisqu'il y a trois électrons dans la couche T2G, il est possible d'avoir des oxydes isolants. Alors, en effet, si vous regardez toute la zoologie des oxydes de métaux de transition 4D, tout au moins ceux que je connais moi personnellement, pratiquement aucun n'est isolant, avec un certain nombre d'exceptions notables. Donc, ces oxydes de technétium, pour lesquels le transport n'a pas été mesuré, donc on ne sait pas vraiment s'ils sont isolants, on le pense, pour les raisons que je vais vous expliquer après. Ça, c'est une première exception. Une deuxième exception, c'est calcium 2 ruthénium au 4, qui est donc ici, mais avec de très très fortes distorsions structurelles, à la différence du composé au strontium. Et c'est probablement à cause de ces distorsions structurales, enfin c'est même à peu près sûr, qu'on arrive finalement à le rendre isolant. Et puis après, il y a des oxydes de métaux de transition 4D isolants pour des raisons purement structurales, comme par exemple une dimérisation des ruthéniums, plutôt un isolant de type Peyers. Hein. Pour tous les autres composés oxydes de métal de transition 4D, on a affaire à des métaux, qui peuvent être des mauvais métaux ou des bons métaux, quelquefois des très bons métaux. Ça, par exemple, c'est un des oxydes qui a la meilleure conduction connue. Donc on peut avoir des très bons métaux, on peut avoir des mauvais métaux, mais on a des états métalliques, et on le comprend très bien dans ce langage-là. Alors le technétium, donc pourquoi est-ce que le technétium a attiré notre attention dans ce contexte-là? Eh bien parce que l'année dernière, il est paru un article assez remarquable, en particulier du groupe d'Anthony Cheatham, maintenant à Cambridge. Et ce que ces gens-là ont découvert, c'est que donc, dans cette perovskite strontium TCO3, hein, qui est le composé infini perovskite 3D dont on a souvent parlé des propriétés structurales, eh bien, il y a en fait de l'antiferromagnétisme à une température de Néel remarquablement haute, la plus haute de tous les oxydes de métaux de transition 4D, 750 Celsius, donc 1000 Kelvin, hein, donc vraiment une température très élevée. Et donc, ça c'est quelque chose qui a vraiment attiré notre attention. Pourquoi est-ce que dans ce matériau, on a une température de Néel tellement élevée? Qu'est-ce qui permet d'expliquer ça? Alors, pour vous donner une comparaison, si je prends strontium MnO3, eh bien, vous avez une température de Néel qui est un bon facteur 2 plus faible. Et, la raison, et ce sont tous les deux des composés avec 3 électrons D dans la couche T2G. Alors, je voudrais essayer de vous présenter une raison vraisemblable pour ce phénomène. Je précise au passage qu'il y a très très peu d'expérience sur strontium TCO3, évidemment pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, c'est un matériau qu'on ne peut pas étudier n'importe où, et donc en particulier les propriétés de transport n'ont pas été mesurées. Donc je ne connais pas le gap de ce matériau, je ne sais pas même s'il est vraiment isolant, nos calculs théoriques, donc quand je dis nos, c'est les calculs qu'ont fait Yannet, Moivier et Marcus Eichhorn et qui sont publiés dans cette référence-là, nos calculs théoriques situent ce matériau très près de la transition métal-isolant. Donc à la précision des calculs près, c'est difficile de décider si c'est un isolant avec un tout petit gap ou si c'est un très mauvais métal tout près de la transition de Mott. Je pencherai plutôt pour la première hypothèse, mais on n'en est pas absolument certain. Nos calculs théoriques suggèrent que ces oxydes de technétium sont tout près de la transition de Mott ici, alors que strontium MnO3, lui, est un, qui n'est pas entièrement, il faut être honnête, ce n'est pas un matériau qu'il est complètement possible de décrire dans un langage T2G seulement. Mais enfin, si je prends ce langage-là, strontium MnO3 est clairement un matériau qui est beaucoup plus à l'intérieur de la phase de Mott, donc avec un magnétisme plus localisé. Alors voilà essentiellement l'explication pour laquelle la température de Néel pour strontium TCO3 est plus grande. Si vous regardez un modèle très simple, comme le modèle de Hubbard à une borne, au demi-remplissage, donc prenons vraiment un modèle très simple, l'archétype d'un problème des fortes corrélations, et que vous regardez la température de Néel en fonction d'une constante de couplage qui, dans le cas à une borne, serait simplement U sur la largeur de borne, ou U sur U critique, disons. Donc si vous regardez ça, ben, beaucoup de gens qui sont dans cette salle savent, alors il devrait y avoir sur cette courbe une ligne pointillée que personne ne peut voir, mais qui existe. Cette ligne pointillée fait quelque chose comme ça. Elle part ici, elle monte, elle a un maximum et elle descend. D'accord ? Donc le message, c'est qu'en fonction de la force du couplage, la température de Néel a un maximum. Et la raison pour laquelle elle a un maximum est une chose très facile à comprendre et bien connue, a eu très grand. Le magnétisme est un magnétisme localisé. Hein. Le gap de Mott est très très grand par rapport à l'échelle où survient le magnétisme. Donc les degrés de liberté de charge se bloquent à une énergie beaucoup beaucoup plus grande que l'échelle du magnétisme. Je peux raisonner en termes de spin localisé hein, pour comprendre le magnétisme. À U très grand, le modèle qui décrit ce magnétisme localisé, c'est le modèle de Heisenberg avec un super échange qui est de l'ordre T carré sur U, et pour cette raison, la température de Néel est d'ordre une largeur de bande au carré sur U, et donc quand on augmente U, cette température de Néel va tendre vers 0, c'est la raison de cette descente ici. Donc ici, on est dans le régime du magnétisme localisé, où la température de Néel est contrôlée entièrement par U, hein, par T carré sur U, par le super échange antiferromagnétique. Ici, en revanche, à U très petit, on serait dans un régime complètement différent, et d'ailleurs on va retrouver ce débat sur les composés supraconducteurs à base de fer, on est dans un régime où le magnétisme est un magnétisme de couplage faible qui peut se comprendre comme une onde de densité de spin due finalement à la fermiologie du problème, au fait que la surface de Fermi présente des propriétés d'emboîtement, et on a un vecteur d'instabilité, donc dans un cas très simple, ce serait juste pi-pi, hein, un emboîtement parfait de la surface de Fermi qui génère une onde de densité de spin en couplage faible. Donc ici, on est dans le régime du magnétisme itinérant et parce que c'est une transition qui est une transition de couplage faible, en fait très analogue à la transition BCS, mais dans sa version magnétique, eh bien la température critique est aussi très petite, de l'ordre exponentiel de moins 1 sur U, quelque chose comme ça. Et donc, vous voyez, ça donne une température très petite. Donc, dans le régime du magnétisme itinérant, on a des températures de Néel faibles. Dans le régime du magnétisme très localisé, on a aussi des températures de Néel qui décroissent avec U. Et donc, entre les deux, il y a un maximum quelque part. Et l'endroit où a lieu ce maximum, eh bien, c'est en gros le voisinage de la transition de Mott. Hein, c'est-à-dire, c'est quand les degrés de liberté de spin et les degrés de liberté de charge ne peuvent pas vraiment être séparés les uns des autres. Et on est dans ce régime ici où la température de Néel a un maximum. Et donc l'image qu'on peut donner de ce matériau, c'est que, à la différence de strontium MnO3, qui est bien sur la droite dans un régime de magnétisme localisé, la proposition, c'est que strontium TCO3 est en fait très proche de ce maximum, et que c'est pour ça, entre autres, qu'on a une température de Néel si grande. Alors vous voyez que ça, ça a un certain nombre d'implications, qui sont d'une part des implications théoriques et d'autre part des implications pratiques. Première implication théorique, c'est qu'on ne peut pas décrire le magnétisme de ce matériau dans un langage purement localisé, à la différence de des quelques papiers théoriques qui existent sur ce matériau qui décrivent tous le magnétisme en termes d'un modèle de Heisenberg. Nous, on pense, si cette classification est correcte, que cette description est en fait réellement incorrecte, qu'on ne peut pas décrire le magnétisme de ce système dans un langage localisé. Ça, c'est une première implication. Et une deuxième implication, qui est en fait une prédiction, c'est que le comportement sous pression du magnétisme dans ce système va être totalement différent. Vous voyez qu'ici, ce à quoi on s'attend, c'est que si je mets la pression, si j'applique de la pression sur strontium MnO3, on va avoir une augmentation de la largeur de bande, donc on va avoir une diminution de cette constante de couplage. Donc ce diagramme vous suggérerait qu'on peut augmenter la température de Néel en appliquant de la pression sur ce matériau. Et en fait, ça c'est quelque chose qui n'est pas une prédiction parce qu'elle est observée expérimentalement. C'est connu, quand on met la pression sur strontium MnO3, la température de Néel augmente. Il y a même une loi empirique à ce propos-là qui s'appelle la loi de Bloch. Ce n'est pas le même Bloch que celui des bandes, c'est un autre Bloch qui dit la manière dont cette température de Néel augmente avec la pression, et c'est quelque chose qui est vérifié dans beaucoup d'oxydes dans le régime de magnétisme localisé. Alors vous voyez que si cette image est juste, eh bien le comportement en pression de la température de Néel de strontium TCO3 devrait être tout à fait différent, c'est-à-dire qu'on devrait avoir en gros une température de Néel, puisqu'on est près du maximum ici, une température de Néel en gros indépendante de la pression, peut-être même, si on est plus du côté itinérant, une décroissance, qui sait, mais en tout cas une forte violation de la loi de Bloch. Voilà, donc c'est une prédiction pour les gens qui sont capables de faire des mesures de strontium TCO3 sous pression. Enfin, ça viendra certainement un jour. Pourquoi pas, il y a bien eu la mesure des spectres de phonon du plutonium à l'ESRF, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas étudier le magnétisme de strontium TCO3 sous pression. Mais en tout cas, c'est une prédiction claire qui se révélera correcte ou non et qui est directement liée à cette question de la description du magnétisme dans ce système. Et donc vous voyez sur cet exemple comment on peut combiner en fait des idées de modélisation simple. J'ai même pris l'image du modèle de Hubbard à une bande dans ce cas-là qui est clairement évidemment pas réaliste pour ces matériaux, avec des expériences, mais aussi avec des calculs de structure électronique tenant compte des corrélations, puisque les points qui ont été calculés ici sont non pas des points de calcul modèle, mais des vrais calculs utilisant les méthodes structure électronique plus DMFT qui permettent de dire des choses sur ce problème. Bon, alors je suis allé un petit peu vite sur les détails, parce que je ne vais pas faire un cours sur strontium TCO3. Il y a en fait deux effets dans ce magnétisme de grande température de Néel. Il y a cet effet-là, et il y a un effet de largeur de bande aussi qui contribue à rendre la température de Néel grande. La largeur de bande de strontium TCO3 est plus grande que celle de strontium MnO3 à cause de l'extension des orbitales. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire sur strontium TCO3 en corrélation avec ce diagramme, cette classification, ce diagramme bleu de tout à l'heure. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu des ruthénates. Alors, pour les replacer, donc les ruthénates, vous vous souvenez du séminaire de Félix Baumberger de la semaine dernière. Donc les ruthénates, ce sont des matériaux qui, eux, ont 4 électrons D dans la couche T2G. Hein. Donc ils sont ici. Et je voudrais vous dire quelques mots sur ces matériaux en complément des aspects expérimentaux qu'a présenté Félix Baumberger la semaine dernière. Alors ça, c'est basé sur cet article principalement et d'autres en préparation. Alors pourquoi les ruthénates? Donc les ruthénates, et particulièrement strontium 2 ruthénium O4, de mon point de vue, c'est un oxyde particulièrement intéressant parce que c'est une sorte d'hélium 3 du domaine des oxydes de métaux de transition. Pourquoi une sorte d'hélium 3? Vous savez, l'hélium 3, c'est le liquide quantique pour lequel la théorie des liquides de Fermi a été inventée, bien entendu, mais c'est aussi un liquide, c'est un des rares systèmes qui reste liquide à très basse température, et c'est un système extraordinairement propre, sur lesquels on peut faire toutes sortes d'expériences, non seulement en théorie des liquides quantiques, mais par exemple également en physique classique de la cristallisation, parce que, puisque les expériences se passent à si basse température, eh bien, on peut fabriquer des cristaux avec pratiquement aucun défaut. Donc, le strontium 2 ruthénium O4, en un certain sens, c'est l'hélium 3 de ce domaine, parce que c'est un système, disons, par les standards des oxydes, qui est remarquablement propre. On peut fabriquer des très très gros cristaux, donc ça c'est absolument surréaliste. Vous voyez ici un cristaux qui fait 10 cm de taille, hein, pour les neutroniciens c'est un vrai rêve, monocristal de 10 cm. Il y a quelques personnes au monde qui savent faire ces cristaux-là. Le grand pionnier de ça, c'est Yoshi Maeno à Kyoto. Donc, on a des très gros cristaux, on a des systèmes propres, on a des libres parcours moyens qui sont très grands à basse température, ce qui signifie qu'on peut faire pratiquement toutes les expériences qu'on peut souhaiter faire, dont on dispose dans la boîte à outils de l'expérimentateur, sur ces ruthénates. On peut faire de la photoémission, strontium 2, ruthénium O4, c'est une perovskite avec des plans 2D, hein, comme l'antenne LA2 CuO4, c'est pour ça qu'il y a eu un intérêt évidemment pour ces matériaux-là, donc ces matériaux qui clivent bien, on peut faire de la photoémission. On peut faire évidemment toutes les mesures magnétiques standards, on peut faire des neutrons magnifiquement à cause de ces gros cristaux, mais on peut également faire, à cause des grands libres parcours moyens, on peut faire des expériences d'oscillation quantique, hein, et donc faire une cartographie extrêmement précise de la surface de Fermi, qui a une structure assez complexe, avec trois feuillets, je vais vous montrer ça après, par des mesures d'oscillation de Haas van Alphen. Les grands experts de ça, sur ce matériau, sont en Angleterre, et ont réalisé vraiment une cartographie très détaillée de la fermiologie de ce système. Donc, on a plein d'informations sur strontium 2, ruthénium O4, et si on n'est pas capable, nous théoriciens, de comprendre la physique de ce système, eh bien, c'est vraiment un signe que nos méthodes ne sont pas les bonnes, puisqu'on a plein d'informations, on sait, on connaît toute la phénoménologie du système. Alors, malgré le fait que ce matériau a été étudié depuis une vingtaine d'années très intensivement, eh bien, malgré tout, jusqu'à une date relativement récente, il y avait un certain nombre de questions assez importantes et complètement ouvertes, à mon avis. Il en reste, en particulier ce matériau est supraconducteur à basse température, et je ne pense pas qu'il y ait encore un complet consensus sur l'origine de la supraconductivité, mais je ne vais pas du tout en parler aujourd'hui. Les principaux questionnements que je veux souligner aujourd'hui sont les suivants. On a donc affaire à un matériau de la série 4D. Pour ces matériaux, on s'attend à des U relativement petits, entre 2 et 3 eV, et des largeurs de bande relativement grandes. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, comme je le disais tout à l'heure, un rapport U sur D de l'ordre, disons, de 1 à 2. Bon. Ou D est la demi-largeur de bande. Néanmoins, quand on mesure la masse effective des quasi-particules dans ce métal, eh bien, on trouve un renforcement de masse effective, donc la masse des quasi-particules divisée par la masse donnée par les calculs de structure de bande, qui peut être d'ordre 5 pour au moins la bande la plus lourde. Donc comment se fait-il que dans un système qui devrait être un système relativement itinérant, néanmoins on ait des renforcements de masse effective aussi grands? Première question. Ce nombre de 5 peut d'ailleurs être plus grand dans les systèmes où je substitue du strontium par le calcium. Hein, donc quand je vais vers calcium 2, ruthénium O4, on assiste à une augmentation de la masse effective et à des métaux de moins en moins bons, comme Félix Bamberger en a parlé la dernière fois. Par ailleurs, deuxième mystère, donc pourquoi de fortes corrélations dans ce système, c'était le premier mystère. Deuxième mystère, puisqu'on a toutes ces expériences très détaillées d'oscillations quantiques, on peut savoir quelles sont les bandes, quelles sont les bandes ou les feuillets de la surface de Fermi pour lesquels les quasi-particules sont les plus lourdes. Et ce dont on s'aperçoit, quand on regarde ces expériences, c'est que c'est la bande la plus large qui a le renforcement de masse effective le plus grand. Donc ça, a priori, c'est quand même une situation assez étrange. Alors pour ça, il faut que je vous introduise un petit peu la structure de la surface de Fermi de ce matériau. Félix l'avait fait un peu la dernière fois. Donc j'ai 4 électrons dans la couche T2G. J'ai donc 3 orbitales, dxy, dxz, dyz. Vous voyez que DXY, c'est un matériau bidimensionnel, hein, donc l'hybridation est plus efficace dans les plans. Vous voyez que DXY, qui a ses deux lobes qui pointent dans les plans, a donc tout ce qu'il faut pour faire une bande large. Hein, alors que DXZ est beaucoup plus directionnel. Les orbitales pointent bien, s'hybrident bien dans la direction X, mais dans la direction Z, comme les plans sont très éloignés, eh bien, le transfert électronique est difficile. Donc, très grossièrement, vous vous attendez à ce que la largeur de bande de l'orbital, de la bande qui provient de l'orbital dxy, hein, c'est-à-dire de la bande qui a caractère majoritaire dxy, soit en gros deux fois plus grande que la largeur de bande de l'orbital dxz ou de l'orbital dyz. Alors, c'est exactement ce qui se passe, cette intuition est complètement juste, et voilà la surface de Fermi, donc c'est une coupe à kz égale 0 de la surface de Fermi de ce matériau, en l'occurrence déterminée par la photoémission. Et vous voyez que cette surface de Fermi comporte trois feuillets. Il y a un grand feuillet plus ou moins circulaire ici. Hein. Il y a un feuillet un peu plus carré ici. Donc en fait, ce sont des cylindres. Hein. Je fais une coupe transversale. Et puis ici, il y a quatre petits cylindres qui se refermeraient sur les points IPP, par exemple ici. Et ça peut avoir l'air compliqué quand on le regarde comme ça. Mais en réalité, c'est très simple. Le grand feuillet rond qui est là, eh bien, c'est en gros le feuillet qui provient de l'hybridation des orbitales dxy dans les plans, qui forme donc une bonne surface de Fermi, essentiellement une bande bidimensionnelle dans les plans, hein, avec un bon saut entre sites à la fois dans la direction x et dans la direction y. Comme vous avez 4 électrons à placer dans 3 orbitales, en gros, chaque orbital prend 1,33 électrons. Hein, il y a les levées de dégénérescence au sein du multiple T2G sont très faibles dans ce système, donc elles sont pratiquement dégénérées. Et donc, vous avez ici une surface de Fermi quasi-circulaire qui contient 1,3 électrons et qui provient du feuillet XY, de l'orbital XY. Et puis, par ailleurs, vous avez deux orbitales XZ et YZ. S'il n'y avait aucun saut, aucune hybridation entre ces deux orbitales, eh bien, vous vous attendriez à trouver une surface de Fermi quasi unidimensionnelle pour dxz selon x et quasi unidimensionnelle pour dyz selon y, puisque la dispersion selon z est très faible. Donc vous auriez deux plans parallèles comme ça pour dxz et deux plans parallèles comme ça pour dyz. En réalité, comme il y a une hybridation entre ces orbitales, ces deux ensembles de lignes droites parallèles qui se coupent se recombinent entre elles. Et on ouvre un gap ici, là, là et là, de sorte qu'on se retrouve avec une surface de Fermi carrée, hein, qui a un caractère mix XZ-YZ, qui s'appelle le feuillet bêta dans le jargon des gens qui travaillent sur les ruthénates. Et puis ici, une autre surface de Fermi un peu carrée aussi, mais centrée autour d'ici, qui est le feuillet alpha. Donc vous voyez que la structure électronique de ce matériau s'explique très bien avec les mains. Elle a même fait l'effet, elle peut même faire l'objet de problèmes d'examen pour les gens qui apprennent la physique des solides en première année, comme on l'a fait avec Zilke-Biermann il y a quelque temps. C'est une chose qui s'explique extrêmement facilement. Et si maintenant je regarde la largeur de bande qui correspond à la bande XY, donc celle qui a cette surface de Fermi dite gamma ici, la voilà. Donc ici, c'est la dispersion des états de bloc pour la bande XY, hein. Quand je me promène du point gamma au point M au point X et de nouveau au point gamma de la zone de Brillouin, et vous voyez que la bande XY couvre un intervalle d'énergie qui est presque 4 électronvolts, hein, donc une bande relativement large. Le U est estimé autour de 2 électronvolts et demi, donc vous voyez que le rapport U sur D pour cet orbital est légèrement supérieur à 1, on va dire. Hein. Donc pas de quoi fouetter un chat. Si je regarde les bandes XZ et YZ, eh bien, elle disperse ici. Alors, vous voyez qu'ici, par exemple, selon gamma m, la dispersion est très petite. Ça traduit le caractère directionnel de l'orbital. Et la largeur de bande est, en gros, deux fois plus faible. Bon, donc, si vous montrez cette structure de bande à quelqu'un qui apprend la physique des corrélations et que vous lui dites, voilà, on va regarder l'effet d'un U de Hubbard sur ce système, la première réaction sera de dire, eh bien, cet orbital qui est très large ne va pas faire grand-chose. Hein, sa masse effective va en tout cas être plus petite que la masse effective des bandes étroites qui est là. Et bien, c'est exactement l'inverse qui se passe dans la nature. Donc voilà les résultats expérimentaux. Comme je vous le disais, il y a une cartographie des masses effectives précises à partir des expériences d'oscillation quantique qui pour une fois sont aussi en bon accord avec la photoémission. Il y a quand même eu un assez gros travail derrière ça auparavant. qui montre que la masse effective normalisée à la masse de bande pour le feuillet gamma, donc qui est cet orbital XY, est légèrement supérieure à 5. Alors que pour les feuillets XZ et YZ, ou alpha et bêta, eh bien ce renforcement de masse effective est plutôt autour de 3. Donc vous voyez que 3 ou 5, de toute façon, c'est déjà des nombres relativement grands, donc ça c'est le premier mystère. Le deuxième mystère, c'est pourquoi est-ce que la bande la plus large a le renforcement de masse effective le plus grand. L'intuition suggérerait plutôt le comportement opposé. Donc, voilà le genre de mystère que soulève ce matériau. Alors maintenant, je vais vous montrer le résultat de calculs théoriques sur ce matériau, qui sont donc des calculs de structure électronique plus des MFT. Et ce qu'on a fait dans ces calculs, puisque nous, on est des théoriciens, on peut changer les constantes de couplage à volonté dans nos calculs. On a commencé par faire, enfin on n'a pas commencé en fait, mais on a fini par faire un calcul sans couplage de Hund. Donc juste avec une matrice U qui serait la même pour toutes les orbitales, donc on favorise aussi bien deux électrons de spin antiparallèle dans la même orbitale ou deux électrons de spin parallèle dans deux orbitales différentes, J est nul. Alors vous voyez que quand on fait ça, eh bien on trouve qu'effectivement ce matériau est un matériau, devrait être un matériau peu corrélé, avec des renforcements de masse effective de l'ordre de 1,5 à 2. Donc, ce n'est pas la physique de Motu-Band qui est responsable des corrélations dans ce système. Étant donné les valeurs de U, étant donné la largeur de bande, il est impossible d'expliquer les masses effectives assez grandes pour un oxyde observé dans ce matériau avec la physique de Motu-Band. Et vous voyez que ce qui se passe, c'est que quand on augmente le couplage de Hund, pas jusqu'à des valeurs démesurées, mais disons jusqu'à des valeurs qui ne sont pas complètement déraisonnables pour un tel matériau. 0,4, c'est peut-être un peu grand, mais 0,3, c'est sans doute pas trop déraisonnable. Eh bien, vous voyez qu'on assiste à un très grand renforcement de ces masses effectives. Avec 0,4, on arrive précisément autour des valeurs de 4 à 5, qui sont à peu près les valeurs expérimentales. Donc ça, c'est le premier point. Mais aussi, vous voyez qu'il apparaît une différenciation orbitale. Et ça, c'est un thème important lié au couplage de Hund, donc je n'ai pas encore beaucoup parlé, mais dont Luca va se faire un plaisir de nous parler dans son séminaire, qui est que le couplage de Hund est un grand amateur de différenciation orbitale, et induit des différenciations orbitales. Voilà, alors donc vous voyez ici une différenciation orbitale, et précisément ce qu'on trouve, c'est que c'est l'orbitale ou la bande correspondant à l'orbitale la plus délocalisée qui donne les masses effectives les plus grandes. Donc on trouve bien que c'est l'orbital XY qui a ce renforcement autour de 5, alors que l'orbital XZ a un renforcement autour de 3. Donc clairement, ces calculs théoriques montrent que le couplage de Hund induit les corrélations dans ce matériau, et d'autre part, induit une différenciation orbitale qui va bien dans le sens de celle observée dans les expériences. Alors ici, dans ce tableau, il y a une dernière colonne, ou plusieurs colonnes, mais vous pouvez en garder une seule, par exemple celle-là, quelque chose qui s'appelle T étoile. Alors T étoile, c'est une estimation de l'échelle de cohérence des quasi-particules. Donc dans ces calculs, c'est une quantité qui est définie en comparant le temps de vie, l'inverse du temps de vie des quasi-particules, à la température. Pour qu'une quasi-particule soit bien définie, j'en parlerai plus dans le cours de transport, il faut que l'inverse de son temps de vie, avec les h-bars qui vont bien, soit plus petit que kT. Si je commence à avoir des quasi-particules dont l'inverse du temps de vie est plus grand que kT, par exemple en photoémission, les pics de quasi-particules vont disparaître, j'ai un objet qui est de moins en moins bien défini, et c'est comme ça qu'est définie cette température de cohérence. Alors vous voyez que pour J égale 0, dans ce régime de faible corrélation, cette température de cohérence est énorme, elle est de l'ordre d'une fraction de l'énergie de Fermi. Donc, c'est des milliers de Kelvin. En revanche, quand vous mettez le couplage de Hund, avec une extraordinaire efficacité, eh bien, cette température de cohérence est réduite. Et vous voyez que pour ces valeurs-là, on arrive à des températures de cohérence qui sont de l'ordre de 50 à 100 Kelvin, donc beaucoup plus petites que les échelles électroniques typiques. Et ce que vous voyez là, c'est tout à fait caractéristique de ce dont j'ai parlé au cours précédent, c'est-à-dire l'efficacité du couplage de Hund pour abaisser la température de Kondo. Je l'avais illustré dans le cas d'un atome dans un bain, donc dans le cadre d'un problème Kondo, mais ici, dans le cadre d'un vrai solide, c'est périodique, c'est exactement cette physique-là qui est à l'œuvre. on voit un abaissement de cette température de cohérence des quasi-particules très efficace avec le couplage de Hund. Alors ça, c'est quelque chose qui est également observé expérimentalement. Je vais essayer de vous montrer un résultat expérimental. C'est un très joli article de Valla, enfin du groupe de Brookhaven, qui avait montré, il y a déjà pas mal de temps, comment, quand on augmentait la température, les résultats expérimentaux sont à droite ici, quand on augmente la température, le pic de quasi-particules, alors par exemple à ce point de la surface de Fermi, était bien présent à 20 Kelvin, mais quand je commençais à chauffer le système au-dessus d'à peu près 140 K, eh bien le pic de quasi-particules disparaît. Donc on a un crossover entre un régime cohérent, avec un bon métal, avec des bonnes quasi-particules, bien vues en photoémission, et un régime de plus haute température où il n'y a plus de quasi-particules en photoémission. Et vous voyez que nos estimations de la température de cohérence des quasi-particules sont relativement bon accord avec ces résultats expérimentaux de photoémission. Ils sont illustrés ici, donc c'est calcul théorique. Incidemment, cette température caractéristique d'autour de 140 Kelvin correspond aussi à l'échelle où la résistivité de ce système selon l'axe C a un maximum. Donc ça, je ne sais pas si j'ai une courbe qui illustre ça, non, peut-être pas, mais c'est effectivement quelque chose qui correspond à un changement de régime de transport pour le transport entre les plans. Bien, donc je crois que ça, vu l'heure, qui est déjà 15h20, je crois que ça résume à peu près l'essentiel des choses que je voulais vous dire. Ah, non, je voulais aussi vous montrer encore dans ces résultats théoriques quelque chose qui est destiné à comparer la signature des corrélations dans des calculs théoriques lorsqu'ils sont dus plutôt à la physique de Motubard ou lorsqu'ils sont dus plutôt au couplage de Hund. Et pour ça, j'ai comparé ici, dans cette figure, deux systèmes, strontium VO3, qui est un métal relativement faiblement corrélé, dont on a souvent parlé déjà au cours de ces cours, et puis strontium 2 ruthénium O4. Donc deux systèmes complètement différents, strontium VO3, un électron dans la couche D, à mi-chemin de la transition de mode, strontium 2 ruthénium O4, c'est ce mauvais métal, enfin, disons mauvais métal, ce système corrélé dû au couplage de Hund. Alors vous voyez que quand on regarde, donc ici ce que vous avez, c'est le spectre de photoémission et de photoémission inverse de strontium VO3, et puis la densité d'état calculée par ces méthodes structure électronique plus DMFT pour strontium VO3 et pour strontium 2 ruthénium O4. Alors vous voyez, quand vous regardez ça, il n'y a pas une différence énorme. Ce que vous voyez dans les deux cas, c'est une densité d'état des quasi-particules réduite par les corrélations, une bande de Hubbard inférieure, une bande de Hubbard supérieure. Tout ça est vu dans les expériences, dans les deux cas. Donc il n'y a pas une différence énorme quand on regarde la photoémission intégrée en angle de cette manière-là. En revanche, quand on regarde les résultats théoriques, eh bien, c'est-à-dire si j'étais capable de vraiment extraire la self-énergie de ces matériaux en fonction de l'énergie, en fonction de la fréquence, vous verriez, tout au moins pense-t-on, quelque chose d'assez significativement différent. En vert, ici, vous avez la self-énergie pour strontium VO3. En rouge, vous avez la self-énergie pour les ruthénates. Et ce que vous voyez ici qui est assez frappant, c'est que si vous regardez à haute énergie, la self-énergie, qui est une mesure de la force des corrélations pour strontium VO3, est quelque chose qui est plus grand pour strontium VO3 que pour les ruthénates. Donc les corrélations dans ce système strontium VO3, qui n'est pas un système très corrélé, se manifestent surtout à haute énergie par la formation de bandes de Hubbard. Elles se manifestent aussi à basse énergie par l'existence d'une Z ici, qui est liée à la pente de cette courbe. Mais vous voyez que la pente ici est plus faible pour la courbe verte que pour la courbe rouge qui concerne les ruthénates. En revanche, si vous regardez la courbe rouge, vous voyez que elle a des corrélations plus fortes à basse énergie et plus faibles à haute énergie que dans strontium VO3. Donc le message, au-delà des nombreuses courbes qui sont sur ce graphe, le message principal, c'est que dans un système qui est corrélé en raison du couplage de Hund, les corrélations se manifestent surtout comme un effet à basse énergie, ce qui est un peu normal puisque le couplage de Hund lui-même est une fraction d'électronvolt. Et donc, à haute énergie, on a tendance à avoir des systèmes où les bandes de Hubbard sont moins prononcées, et c'est probablement en relation avec certaines controverses sur les supra à base de fer, dont on parlera tout à l'heure. Hein, donc c'est ça le message de cette courbe. Bon, alors, pour finir ce cours, je voudrais vous parler un petit peu, je vais sauter un peu des choses, je voudrais vous parler un petit peu du régime qui est ici, du régime métallique, donc dans lequel nous pensons que strontium 2 ruthénium O4 est déjà plus ou moins, du régime qui correspond à ce régime mauvais métal, Janus, où le couplage de Hund montre son double effet, d'une part de baisser l'échelle de cohérence, d'autre part d'éloigner le critique. Quelle est la physique dans ce régime blanc, ici, où on a des quasi-particules de faible poids spectral? Alors ça, c'est quelque chose qui a été, j'en ai parlé un tout petit peu la dernière fois, c'est quelque chose qui a été bien illustré par les premiers calculs sur ce sujet, qui sont cet article de Philippe Werner et collaborateurs, et l'article de Howley et Cotillard dans un contexte un peu différent, qui montrait qu'effectivement, quand on entrait dans ce régime, eh bien, il se passait deux choses. D'une part, il y avait une physique du spin qui apparaissait, qui est qu'on formait des moments locaux gelés. Alors, c'est quelque chose, c'est pour ça que les gens qui ont, Werner et ses collaborateurs, qui ont abordé l'étude de cette phase, ont appelé ça la phase spin freezing, ou gel de spin. Hein. Ce qu'ils ont calculé, c'est la fonction de corrélation spin-spin locale, et ce qu'ils ont montré, c'est que dans cette phase gel de spin, eh bien, cette fonction de corrélation spin-spin locale tend vers une constante pour des grandes séparations temporelles, donc on a essentiellement un moment local gelé. Évidemment, à plus basse température, ce moment local peut s'ordonner, peut faire quelque chose, mais dans ce régime, au-dessus des températures d'ordre, on va avoir un métal avec des moments locaux. Donc ça, c'est un premier aspect. Corrélativement, on a une susceptibilité locale avec des lois de Curie-Weiss à basse température. Et puis, par ailleurs, si je regarde les propriétés électroniques du système, donc toujours la self-énergie électronique, ce qui était observé dans ces calculs, c'est qu'en fait, quand on était dans ce régime, et particulièrement, c'est particulièrement clair sur la frontière de ce régime, eh bien, on avait une self-énergie qui variait en loi de puissance avec la fréquence, essentiellement oméga puissance 1,5, donc très très fortement différent d'un liquide de Fermi, où la partie imaginaire de la self-énergie est un oméga 2. Donc il y a cette observation. Alors, est-ce que c'est vraiment un système qui reste non liquide de Fermi jusqu'à température nulle? En réalité, non. Il y a des calculs qui vont jusqu'à très très basse température, qu'on a fait avec Yerna et Mravlier, qui montrent clairement que dans ce régime, il y a une échelle de cohérence très faible, donc de nouveau la suppression de l'échelle de cohérence par J, en dessous de laquelle on va finir par retrouver un liquide de Fermi. Ce qui est montré ici, c'est la partie imaginaire de la self en fonction de la racine carrée et de la fréquence. Vous voyez qu'on a un très très beau régime loi de puissance, hein, sur presque une décade, et puis finalement à basse fréquence, c'est à très 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 basse température, ça c'est l'inverse température fois la largeur de bande, la demi-largeur de bande, on retrouve un comportement qui ici apparaît comme une parabole, c'est-à-dire linéaire en fréquence, hein, comme il est montré là, qui est caractéristique plus du régime liquide de Fermi. Donc dans ce régime, on n'a pas vraiment une loi de puissance jusqu'à très basse température, mais on a une loi de puissance sur un régime de température intermédiaire qui peut être jusqu'à des températures néanmoins extrêmement basses. Alors, quelle est l'origine de cette loi de puissance? J'avais prévu de vous en parler un petit peu plus en détail, mais je ne vais pas vraiment avoir le temps, je crois. Je voudrais juste vous dire quelques mots là-dessus. Premièrement, ce régime donc de gel de spin et de loi de puissance pour la self-énergie pourrait avoir des conséquences observables et peut-être même déjà observées, en particulier dans les plus corrélés des ruthanates, les ruthanates substitués au calcium, pour lesquels il est connu depuis déjà une quinzaine d'années que l'optique, les mesures d'optique par exemple, montrent des comportements très anormaux à basse fréquence. Donc voilà une mesure, il y a eu plusieurs groupes qui ont travaillé là-dessus, le groupe de Steve Dodge à Berkeley au Canada, puis des groupes japonais, qui ont montré que l'optique en fonction de la fréquence dans calcium-ruthénium O3 avait un comportement à basse fréquence qui était... Il y a un pic de Drude qui se développe, comme vous voyez ici, quand on va des hautes vers les basses températures. Mais si j'analyse finement la dépendance en fréquence de ce pic de Drude, eh bien, en fait, il n'est pas du tout en 1 sur oméga 2. On a un pic beaucoup plus large. Vous le voyez pratiquement ici à l'œil nu. Et quand on essaye d'analyser la dépendance en fréquence de ce pic, eh bien, on trouve à peu près 1 sur racine de oméga. Alors ça, c'est en fait un scaling où on a représenté sigma de oméga normalisé par 1 sur racine de oméga en fonction de oméga sur T, où T est la température, pour différentes températures. Et vous voyez qu'on a un beau collapse de ces données sur une sorte de courbe universelle, ce qui démontre deux choses. C'est qu'on a un régime en 1 sur racine de oméga, mais également une loi d'échelle en oméga sur T de ce régime. Donc là, l'ensemble de ces courbes, concrètement, ça veut dire que l'ensemble de ces courbes dans un certain régime de température peut se ramener en rescalant l'axe des fréquences par la température sur une courbe universelle qui est celle-ci. Donc ça, c'est pour l'optique. Et pour le transport DC, ici, vous avez la résistivité pour calcium-ruthénium O3 représentée en fonction de la racine carrée de la température. Et vous voyez que vous trouvez pour calcium-ruthénium O3 une belle loi de puissance en racine de T jusqu'à des températures très faibles en dessous de laquelle on finit par retrouver quand même un T2. Pour strontium-ruthénium O3, on a aussi une loi en racine de T qui marche un peu moins bien, mais pas trop mal. Ici, l'accident que vous voyez là correspond au ferromagnétisme de strontium-ruthénium O3 qui est ferromagnétique à 130 Kelvin, mais qui pourrait être dans ce régime non liquide de Fermi, gel de spin, au-dessus de cette température de Curie. Donc vous voyez qu'il est possible que ce comportement qui a été observé théoriquement dans ces modèles soit lié à ce comportement de transport et d'optique anormal ces expériences sur les ruthénates. Et il est possible que ces considérations-là aient aussi des conséquences pour les plus corrélés des supraconducteurs à base de fer, les chalcogénures en particulier, dont on va entendre parler dans les séminaires. Voilà. Alors, pour la compréhension théorique de ce problème, je vais juste dire un mot. C'est un problème ouvert. Donc, la compréhension théorique détaillée de ce régime non liquide de Fermi est essentiellement un problème ouvert. À mon avis, c'est un problème ouvert particulièrement intéressant, puisque ça serait un exemple où les approches locales des corrélations, donc qui sont basées sur la notion d'un atome dans un environnement, les approches de type champ moyen dynamique, auraient révélé un point fixe non liquide de Fermi d'un problème. Donc c'est vraiment une sorte de validation de cette construction-là. Est-ce qu'on est capable, à partir de ces approches, de comprendre l'origine de ces lois de puissance? C'est quelque chose qui est l'objet de travaux théoriques actuels. La référence la plus pertinente qui donne une piste sur cette question-là, c'est une thèse de doctorat qui est la thèse de Lorenzo De Leo, qui était dans notre équipe il y a quelques années, dans laquelle il a précisément étudié des problèmes d'impureté pour trois orbitales et deux ou trois électrons. Donc il a étudié ce type de problèmes Kondo, qui sont les problèmes Kondo qui proviennent du modèle à trois orbitales dont j'ai parlé jusqu'ici, dans une approche à la théorie des champs moyens dynamiques. Et en fait, quand on analyse les différents points fixes de ce problème Kondo, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, on peut montrer que pour deux électrons dans trois orbitales, ce système doit être un liquide de Fermi. Donc ça, c'est un résultat qui a été établi dans cette thèse. Donc c'est parfaitement cohérent avec les observations numériques que je vous ai montrées tout à l'heure. Mais il y a également un certain nombre de points fixes qui sont des points fixes non liquides de Fermi qui apparaissent dans ce problème et qui sont des candidats possibles pour expliquer la physique non liquide de Fermi de ce problème. Donc l'idée, ça serait que le vrai point fixe à basse température, basse énergie, basse température, dans le jargon du groupe de normalisation, le point fixe stable dans l'infrarouge, est un point fixe liquide de Fermi, mais que le système pourrait passer dans son crossover entre le régime de haute température et le régime de basse température, pourrait passer près d'un point fixe non liquide de Fermi, qui pourrait être identifiable de manière précise mathématiquement dans ce type de modèle Kondo. Voilà. Donc ça, c'est l'objet de recherche dans notre groupe actuellement, et ce n'est pas un problème qui est encore résolu. Voilà, donc je crois que ça clôt ce que je voulais vous dire sur ce régime, gel de spin non liquide de Fermi. Hein, et on va faire une petite pause. Dans les séminaires, on va parler de supraconducteurs à base de fer. Je vais laisser Silke Biermann, qui sera notre première oratrice, introduire ces matériaux. Mais je voudrais quand même juste vous dire deux mots pour essayer de donner un peu quelques perspectives. Donc ces matériaux, comme elle vous l'expliquera, ont été découverts il y a maintenant 5 ans au Japon, puis également très rapidement développés par les groupes chinois. Ça a été une assez grande découverte, puisque c'est une nouvelle famille de supraconducteurs, disons à haute température critique. La température critique monte jusqu'autour d'un peu moins de 60 K. Ce n'est pas les cuprates, mais enfin c'est quand même pas mal. Et très rapidement, ce qui est apparu dans ce domaine, c'est une controverse assez forte, qui n'est pas fermée, qui n'est pas terminée, qui était de savoir à quel point ces matériaux à base de fer présentaient des fortes corrélations. Et alors, sur cette question-là, on a vu toutes les réponses. Donc, la première classe de réponses, qui est probablement celle qui a dominé les premières années de ce domaine, au moins si on compte statistiquement, comme dans les sondages, eh bien, c'est que c'est des matériaux relativement faiblement corrélés, voire très faiblement corrélés, des matériaux en couplage faible, des antiferromagnétiques itinérants de type onde de densité de spin, donc la gauche du diagramme magnétique dont je parlais tout à l'heure, hein, par exemple comme l'onde de densité de spin du chrome. Une autre école de pensée, beaucoup plus minoritaire, a été de penser qu'au contraire, on allait décrire le magnétisme de ces systèmes, et donc après la physique du métal, à partir de descriptions de magnétisme très localisées, c'est-à-dire en fait comme dans les cuprates, hein, en termes d'un modèle TJ ou d'un modèle de Heisenberg pour décrire le magnétisme. Alors évidemment, ça ne peut pas être vraiment complètement vrai, puisque déjà ces matériaux sont métalliques dans l'état parent. Donc, l'image du magnétisme localisé est peut-être un petit peu difficile, mais enfin, il y a quelques papiers qui ont pris cette piste. Et puis, il y a une troisième voie qui a été suivie, qui est de dire que ces matériaux sont fortement corrélés. Ils ne sont pas forcément tous aussi corrélés les uns que les autres. Il y a une diversité au sein de cette famille, ça, on en entendra parler dans le séminaire. Mais l'origine des corrélations n'est pas la même physique que dans les cuprates, ce n'est pas la proximité d'un isolant de Mott. C'est plutôt l'effet du couplage de Hund, et il faut rendre justice à l'article de Kotler et Howley qui ont pris ce point de vue très tôt dans ce domaine pour dire que c'était le couplage de Hund qui corrélait ces systèmes. Et depuis, il y a eu quand même beaucoup de travaux qui semblent effectivement aller dans ce sens. Donc voilà, donc ceci met un petit peu la controverse sur la table. Il n'y a certainement pas encore consensus dans le domaine, il y a des tenants des différents points de vue. On verra ce qui sort des séminaires. Donc l'idée, c'est de faire deux séminaires, l'un de 45-50 minutes, l'autre un peu plus bref, et puis après d'avoir une séance de discussion pour ceux qui s'intéressent à la physique de ces supras à base de fer. Voilà, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions sur le cours, posez-les maintenant. Et on va prendre une petite pause et passer au séminaire.